Bonjour à tous. Il s'est suicidé en prison cet été. Le milliardaire Jeffrey Epstein avait été condamné pour incitation à la prostitution de mineurs. Mais au cœur de son réseau, on retrouve un Français, Jean-Luc Brunel. Alors quel rôle jouait-il dans ce qui ressemble à un trafic de jeunes filles entre la France et les États-Unis? Et l'affaire Epstein ne va-t-elle pas rebondir chez nous? C'est ce qu'on va voir avec vous, Valérie Cantier. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous également, Laetitia Chirel. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, Théo Hetch. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous allez nous raconter tout ce que vous avez découvert, mais je précise auparavant que ce que vous allez entendre dans cette émission peut choquer, et notamment les plus jeunes d'entre nous.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
This is an NBC News special report.
NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life.
Voilà, ça c'était en août dernier. Les chaînes de télé américaines annoncent la mort de Jeffrey Epstein. Une affaire qui a tellement sidéré que nous avons voulu, nous, à Secret d'Info, aller plus loin et explorer plus précisément son volet français. Alors, ça n'a pas été simple, hein, il faut le dire, parce que rares sont ceux qui ont accepté de nous parler à visage découvert. Mais on a quand même pu reconstituer une partie du puzzle. Alors, on va commencer par le commencement avec vous, Valérie Cantier. D'abord, rappelez-nous, Jeffrey Epstein, c'était qui ?
Eh bien, Jeffrey Epstein, c'était un homme d'affaires issu de la classe moyenne américaine. Il est né dans un quartier modeste de Brooklyn, à New York. Il est d'abord prof de maths physique, mais il change très vite de métier. Il devient tout d'abord trader, puis gestionnaire de fortune.
Oui, en l'occurrence, gestionnaire d'une fortune en particulier.
Oui, celle d'un grand patron américain, Leslie Wexner, qui possède notamment la marque de lingerie Victoria's Secret. En 1986, Epstein devient son bras droit, à tel point qu'il a le pouvoir de tout faire. Engager des employés, signer des chèques, acheter et vendre des propriétés. Et c'est ainsi qu'il aurait constitué sa propre fortune, sans que l'on sache vraiment à ce jour à combien elle s'élève.
Oui, alors ça c'est pour son parcours, en quelques mots, Valérie. Maintenant, si on en parle aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il a été mis en cause dans des affaires d'exploitation de mineurs.
Oui, alors il y a une première affaire en 1996. Une artiste peintre affirme qu'il l'a agressée chez lui, à New York, à plusieurs reprises. Sa sœur de 16 ans également. Mais à ce moment-là, aucune enquête n'est menée.
Oui, en fait, c'est plus tard que les nuages s'accumulent.
Oui, en 2005, une mère de famille de Palm Beach, en Floride, affirme à son tour que sa fille de 14 ans a été agressée sexuellement par Jeffrey Epstein, chez lui, avec la complicité d'une femme.
Et qui ça ?
Eh bien, selon ces témoignages, ce serait Ghislaine Maxwell, la fille d'une Française et du sulfureux patron de presse britannique Robert Maxwell. Selon plusieurs témoignages, elle approche des jeunes filles à la sortie du lycée ou encore dans un hôtel où elle travaille. Celle-ci accepte de se rendre chez Epstein pour pratiquer des massages, sauf que ces massages dégénèrent. Écoutez Virginia Roberts, qui se présente comme l'une de ses victimes. Elle a raconté au Miami Herald comment les choses se sont passées pour elle.
Ça s'est terminé en agression sexuelle, une relation sexuelle, puis une tape dans le dos. Tu as fait du bon boulot. Merci beaucoup. Voici 200 dollars. Et du jour au lendemain, vous vous êtes prêté à des politiciens, des professeurs, et vous vous demandez comment ont-ils pu arriver à un tel degré de pouvoir en étant aussi dégueulasse.
Attendez Valérie, quand elle parle de politiciens, elle parle de qui ?
Elle cite notamment deux ex-gouverneurs américains.
Ouais, donc deux personnalités qui sont a priori peu connues chez nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, des dizaines de victimes sont identifiées. Jeffrey Epstein risque alors la prison à vie. Mais un accord incroyable est conclu fin 2007 entre le procureur de Floride et l'avocat d'Epstein.
Et pourquoi incroyable ?
Eh bien, parce qu'il n'effectuera que 13 mois de prison ferme. On accorde en plus l'immunité à tous ses potentiels complices, dont Ghislaine Maxwell. Et 6 jours sur 7, on autorise son chauffeur à venir le chercher en prison et à l'emmener à son bureau où il reçoit tranquillement des dizaines de visites.
Ce qui paraît effectivement assez incroyable, mais l'affaire va rebondir.
Oui, beaucoup plus tard, en 2015, Virginia Roberts dépose une nouvelle plainte en Floride. Elle affirme qu'Epstein l'a forcée à avoir des relations sexuelles alors qu'elle était mineure, notamment avec le prince Andrew, le frère du prince Charles. Et elle porte plainte également contre Ghislaine Maxwell. Elle lui reproche de l'avoir formée à se soumettre aux volontés d'Epstein.
L'entraînement a commencé presque tout de suite. Comment faire une fellation, Ne fais pas de bruit, sois obéissante, donne à Jeffrey ce qu'il veut. C'est Ghislaine qui nous apprenait à tout faire. Et ça surprend qu'une femme non seulement laisse faire ça, mais y participe et vous façonne comme cela. Puis Jeffrey disait, je veux ça, comme ça, va plus lentement, ne fais pas ci, fais ça.
Et je précise que Virginia Roberts a passé 3 ans auprès de Jeffrey Epstein avant finalement de porter plainte contre lui.
Ouais, c'est assez effrayant ce qu'on entend. Et c'est d'ailleurs en partie ce témoignage, hein, Valérie, qui va faire basculer les choses.
Oui, en novembre 2018, le Miami Herald publie ses propos dans une longue enquête qui fait scandale. Conséquence, le 6 juillet 2019, alors qu'il descend de son Boeing privé à New York, Jeffrey Epstein est arrêté. 3 jours plus tard, il est inculpé et le 10 août, donc, on le retrouve pendu dans sa cellule.
Et on pourrait donc croire que c'est la fin de l'affaire. Sauf que cette affaire, elle pourrait bien rebondir et devenir une affaire française. Parce qu'au cœur du réseau de Jeffrey Epstein, eh bien, le nom d'un Français apparaît. Il s'appelle Jean-Luc Brunel. Il est soupçonné d'avoir procuré des jeunes filles à l'homme d'affaires américain. Alors, Laetitia Chirel, cette fois-ci, eh bien, vous, expliquez-nous maintenant, c'est qui Jean-Luc Brunel ?
Alors Jean-Luc Brunel, c'est un homme de 74 ans qui a longtemps été un personnage incontournable du milieu de la mode. Toujours bronzé, tiré à 4 épingles, au volant de belles voitures, il affirme avoir été élevé dans la haute bourgeoisie parisienne. Et après ses études, il fait un peu tous les métiers, relations publiques, tourisme, puis il part tenir un bar à Ibiza, une destination de rêve pour cet amateur de fêtes et de jolies filles, comme il le reconnaît dans une interview qu'il avait donnée à France Soir en 1995 et que nous avons fait lire.
Je faisais des affaires à Ibiza, et à vrai dire, je ne savais pas faire grand-chose. J'ai été marié, puis divorcé à un mannequin, et je sortais beaucoup. À 25 ans, je ne pensais qu'à une chose, courir après les filles. Et puis on évolue. Aujourd'hui, j'ai 2 nièces de 15 et 16 ans, et ça me fait réfléchir. J'ai progressé dans le sens du respect de la personne humaine.
Ouais, ça, c'est ce qu'il dit donc en 1995 et ensuite.
Ensuite, il rachète l'agence Carine Model et il en fait l'une des plus grandes agences de la place de Paris. Il se vante d'avoir notamment repéré Sharon Stone ou encore Estelle Lefébure et il apparaît longuement dans un documentaire de l'émission 52 minutes sur TF1 en 1995 sur le métier d'agent de mannequin. Écoutez cet extrait. Jean-Luc Brunel est alors en plein casting.
Das Maddalena, I found her in Ostrava.
Ça fait 8 jours qu'elle est là, il a fallu lui faire arranger ses cheveux. Elle avait un petit problème de peau, il a fallu que ça s'arrange. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polie. Et puis après, ça se vend le plus cher possible.
Oui, je vous laisse juge de la comparaison. En attendant, il est donc reconnu, hein, Laetitia, dans le milieu du mannequinat, mais il est aussi connu pour une certaine addiction.
Oui, une addiction à la cocaïne, précisément, ce qui n'est pas exceptionnel dans ce milieu. Il reconnaît lui-même consommer cette drogue et c'est confirmé par l'ancienne comptable d'une de ses agences de mannequins. Elle a témoigné sous serment aux États-Unis et nous avons fait lire ses propos.
Jean-Luc avait un problème, c'était un drogué, un accro à la cocaïne. Il a toujours été comme ça depuis que je le connais. Je ne l'ai jamais vu prendre de la cocaïne au bureau, mais parfois, il arrivait à l'agence, il saignait du nez et il avait des trucs blancs autour de son nez. Et il fallait qu'il aille se nettoyer. Il avait une boîte où il mettait la cocaïne et tout le monde savait. Il disait toujours à un type de l'agence, « Va m'en chercher de la bonne ». Et le type y allait.
Ouais, le type y allait. Et parallèlement, Jean-Luc Brunel faisait souvent la fête.
Oui, fête qu'il organise dans son immense appartement du 45 avenue Hoche à Paris. Nous avons rencontré un ancien assistant de mode qui avait 20 ans dans les années 80. Il a tenu à rester anonyme et nous avons donc fait lire ses propos. Il ne connaissait pas personnellement Jean-Luc Brunel, mais il a participé à beaucoup de ses soirées.
Il recevait très bien, il y avait du monde pour servir. On était facilement 100 à 150. Il y avait Estelle, Lefébure et d'autres mannequins qui sont devenus connus après. Des jeunes mannequins, bien sûr, mais impossible de dire si elles étaient mineures. Il y avait aussi des gens un peu plus âgés, des mecs de 40 piges. C'était pas des hommes d'affaires, c'était des gens de la mode. Jean-Luc Brunel était aussi très souvent au bain-douche où il venait avec des mannequins. Mais je n'ai jamais rien vu de scabreux, je n'ai pas cette image-là de lui.
Et pourtant, cette image-là, Laetitia, ben, elle va apparaître en 1988. Un scandale éclate après la diffusion d'un documentaire sur CBS.
Oui, le programme 60 Minutes s'intéresse alors aux rêves envolés de jeunes mannequins américaines qui viennent à Paris et qui déchantent. Une d'entre elles accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir droguée, puis violée. Dans cet extrait, elle répond aux questions de la journaliste vedette.
Il vous a donné à boire ?
Oui.
Vous avez bu et qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai un trou, je ne me souviens plus de rien après ça. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée dans le lit de cet homme. C'était Jean-Luc, de l'agence de mannequin Karine.
Vous avez été violée ?
Oui, je le sais.
Vous êtes sûre ?
Oui, j'en suis certaine, je le sais.
Vous pensez que tout le monde sait que Jean-Luc Brunel se comporte comme ça ?
Oh oui, beaucoup de gens savent, beaucoup.
Beaucoup de gens, mais c'est confirmé ça ?
Alors à ce stade, il faut encore rester très prudent, mais on a retrouvé le journaliste américain qui a fait cette enquête. Il s'appelle Craig Pies, il a travaillé 7 mois sur le sujet, et lui est formel, la profession, dit-il, était au courant.
La réputation de Jean-Luc était très connue dans l'industrie de la mode, parmi les directeurs d'agences et même aux États-Unis, parce que de nombreuses mannequins racontaient à leurs agents qu'elles avaient des difficultés, que Jean-Luc leur avait proposé de les offrir à ses amis pour aller à des dîners et pour coucher avec eux. Et les filles qui résistaient n'avaient plus de travail. Leur rêve de devenir mannequin s'arrêtait parce qu'elles n'avaient pas couché avec Jean-Luc ou avec ses amis. C'est ce que les filles disaient.
Ouais, c'est ce que disent les filles. Et Jean-Luc Brunel, lui, qu'est-ce qu'il répond à ça, Laetitia ?
Eh bien, il dément en bloc toutes les accusations qui sont portées contre lui et il menace même de poursuivre CBS, mais il ne met pas sa menace à exécution.
Bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, quelques mois plus tard, la prestigieuse agence Ford met fin à sa collaboration avec lui. Il reste tout de même propriétaire de l'agence Karine, mais il ne la dirige plus. C'est son associé qui prend le relais.
Mais ses ennuis ne s'arrêtent pas pour autant.
Non, en 1995, dans un livre très documenté sur les dessous de la mode, d'autres témoignages accablent Jean-Luc Brunel. L'auteur du livre, le journaliste américain Michael Gross, a interviewé Jérôme Bonouvrier, qui était alors le patron très respecté d'une agence de mannequins française. Et voilà ce qu'il lui a dit.
Il m'a dit qu'il considérait Brunel comme un danger public parce qu'il vivait son rêve de playboy en détenant une agence de mannequins. Qu'il savait exactement ce que cherchaient les filles fragiles et qu'il était toujours à la limite. Vous savez, Bonouvrier n'a pas été le seul à me dire ça. John Casablanca, qui a été le fondateur de l'agence Elite, disait la même chose, que Brunel et ses amis invitaient les filles à des fêtes, mettaient de la drogue dans leur verre, ils les traitaient même de salopards.
Ouais, alors à ce stade, on va quand même rappeler que Jean-Luc Brunel n'a jamais été condamné et qu'il ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune poursuite. Mais cependant, une ex-mannequin nous a aussi raconté, elle, sa propre expérience. Et ce qu'elle nous a dit semble, Laetitia, accréditer ses propos.
Oui, c'est un témoignage exclusif. Elle s'appelle Courtney Sorensen, elle est américaine et elle a 19 ans quand elle arrive à l'agence Karine à Paris en 1988. Elle dit que lors d'une fête chez lui, Jean-Luc Brunel l'amène dans un couloir à part. Et la suite, elle la raconte à Valérie Cantier.
On a fini par se retrouver seul. Il s'est rapproché de plus en plus de moi. Il a mis ses mains sur mes reins, sur mes hanches. Je me suis écartée. Il m'a alors dit que s'il pouvait me montrer comment faire plaisir à ses amis, il pourrait me trouver les meilleurs contrats possibles. Puis il m'a poussé sur le lit, j'ai résisté, il a persisté, il a essayé d'enlever ma chemise, m'a tiré fort vers lui sur le lit, j'ai fini par m'enfuir de la chambre.
Et je précise qu'à la suite de ça, elle explique qu'elle n'a plus trouvé de travail chez Karine Model.
Oui, alors ça c'est donc en 88, et ensuite Jean-Luc Brunel, lui, il va s'expatrier.
Oui, il part vivre aux États-Unis vers la fin des années 90, et c'est là, semble-t-il, qu'il fait la connaissance de Jeffrey Epstein.
Et il l'accompagne souvent ?
Oui, il apparaît une quarantaine de fois sur les registres de vol de l'avion de l'homme d'affaires entre 2000 et 2005.
Une quarantaine de fois, ce qui n'est pas rien, donc les deux hommes sont apparemment très proches.
Oui, et apparemment apparemment, Jeffrey Epstein aurait même donné un coup de pouce financier à son ami, puisqu'il aurait investi dans MC Square, une agence que Jean-Luc Brunel a créée en 2005 à Miami. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancienne comptable de cette agence. Dans une déposition sous serment en 2010, elle explique que l'homme d'affaires a dégagé une très grosse somme d'argent. Nous avons fait lire un extrait de son témoignage.
Jean-Luc a toujours dit que Jeffrey était son ami, qu'il était millionnaire et que Jeffrey lui donnait de l'argent, des prêts, des trucs comme ça. Jeffrey Epstein a donné $1 million à l'agence MC Square. Je le sais parce qu'au début, Jeffrey ne voulait pas signer de papier et il a fini par les signer. Et c'est moi qui les ai apportés à la banque.
Et Jeffrey Epstein, il a fait d'autres cadeaux à Jean-Luc Brunel ?
Eh bien, toujours selon la comptable, les jeunes filles étaient logées soit dans des appartements fournis gratuitement par Jeffrey Epstein, soit dans d'autres appartements loués par l'agence de Brunel et utilisés d'une manière plutôt particulière.
Nous louions 2 appartements pour les filles et c'est Jean-Luc qui décidait dans lesquels elles allaient. Si c'était des gentilles filles qui pouvaient rapporter de l'argent, elles habitaient dans les appartements luxueux d'Epstein. Si c'était des filles banales, elles habitaient dans des endroits pourris.
Ouais, reste à savoir ce qu'on entend par gentille et banale. Bon, maintenant Laetitia, qu'est-ce que Jeffrey Epstein aurait reçu en échange de ses appartements de la part de Jean-Luc Brunel ?
Eh bien, des jeunes filles auraient été amenées par Jean-Luc Brunel à l'homme d'affaires. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé 2 femmes dans la première procédure visant Epstein en 2007, l'accusant d'être, je cite, son rabatteur. Une accusation confirmée par son ex-comptable.
Ce que j'entendais au bureau, c'est Jean-Luc qui disait qu'il emmenait des filles de 15 ou 16 ans chez Jeffrey. Il emmenait les filles lui-même en voiture, je réservais une limousine et il les amenait directement chez M. Epstein, parce qu'il y avait une fête et qu'il devait y avoir des filles.
Jean-Luc Brunel aurait donc lui-même conduit des filles mineures chez Epstein ?
Oui, et Virginia Roberts, une des principales plaignantes contre Jeffrey Epstein aux États-Unis, porte une accusation du même type. Je vous préviens, ces propos que nous avons fait lire sont vraiment glaçants.
Epstein, Brunel et Maxwell adoraient les orgies avec les très jeunes filles, c'est-à-dire coucher avec de nombreuses adolescentes en même temps. Parfois, il y avait jusqu'à 10 jeunes filles avec eux. J'ai assisté à au moins une douzaine de ces orgies. Le pire que j'ai entendu de sa bouche, c'était à propos de 3 jolies filles de 12 ans qu'il avait fait venir par avion pour son anniversaire. C'était un cadeau surprise d'un de ses amis, Jean-Luc Brunel, et elles venaient de France. Je les ai vues, je les ai rencontrées. Jeffrey s'est vanté après qu'elles avaient 12 ans et qu'elles étaient venues de France parce que leurs parents avaient besoin d'argent.
Effectivement, c'est assez épouvantable. Mais si tout ça est vrai, Laetitia, ce qui n'a pas été établi d'ailleurs pour l'instant, ça ressemble quand même à une forme de trafic, non ?
En tout cas, ça peut ressembler à un système très bien rodé, y compris au niveau administratif, car Epstein tenait, semble-t-il, à donner à tout ça un vernis présentable. Ainsi, toujours selon la comptable, il aurait demandé aux agences de Jean-Luc Brunel, Karine et MC Square, de se charger de trouver des visas en règle pour certaines des filles qu'il faisait venir.
Beaucoup de filles venaient d'abord sans visa de travail, comme touristes. Elles travaillaient rarement et on leur prenait 30% de leurs revenus, alors qu'elles n'avaient même pas le droit de travailler. Et puis, je pense que M. Epstein a commencé à mettre la pression sur Jean-Luc, car il ne voulait pas avoir de problème. Il voulait que toutes les filles aient un visa. Donc, on payait un avocat pour s'occuper des visas à Miami. M. Epstein a payé directement les visas, mais les visas passaient par Karine et MC Square.
Ah oui, donc officiellement on fait venir des mannequins, mais c'est Epstein qui aurait payé pour les visas. Bon, cela dit, tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre, Laetitia, c'est très grave. Mais en dehors de ces témoignages, et de ces multiples d'ailleurs, on l'a vu témoignages, est-ce qu'il existe des preuves ?
Alors, pour ce qui concerne Jeffrey Epstein, oui. En revanche, pour Jean-Luc Brunel, non. Maintenant, il existe tout de même des messages troublants qu'il aurait dictés à un employé de Jeffrey Epstein et que cet employé a retranscrit sur un post-it retrouvé dans la résidence de l'homme d'affaires à Miami. Voilà un de ces messages. Le texte est codé, mais on comprend facilement de quoi il s'agit.
Il a une prof pour vous, apprendre le russe. Elle a 2x8 ans, elle n'est pas blonde. Les cours sont gratuits et elle peut commencer aujourd'hui si vous l'appelez.
Ouais, il a une prof, donc une fille, hein, on comprend. Et 2 fois 8, c'est sans doute 16 ans. Message de Jean-Luc Brunel, donc. Maintenant, au-delà de ça, Laetitia, on l'a dit, hein, malgré tout ce qu'on vient de raconter, il n'y a aucune plainte contre lui.
Eh bien non. Au moins 3 femmes ont été entendues récemment par la police française, mais les faits sont prescrits.
Et lui, Jean-Luc Brunel, qu'est-ce qu'il répond à tout ça?
Je lui ai envoyé plusieurs demandes d'interview, mais il n'a pas répondu. En revanche, voilà ce que nous a dit son ancien avocat, Joe Titone, qui est basé à Miami.
Il a toujours nié avoir été impliqué dans les actes sexuels répréhensibles d'Epstein. Ils étaient amis, mais il m'a toujours dit qu'il n'avait rien à voir avec ce que faisait Epstein avec des mineurs.
Ouais, donc lui dément. Et Jean-Luc Brunel, Laetitia, on sait où il se trouve aujourd'hui?
Alors j'ai posé la question à Joe Titone et voici ce qu'il m'a répondu.
Il va bien, pour tout vous dire. Il m'a appelé jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Il m'a dit qu'il avait le moral. C'était une conversation très courte.
Pouvez-vous nous dire où il est?
On a dit qu'il était en Amérique du Sud, mais je ne pense pas que ce soit vrai. S'il est quelque part, c'est en Thaïlande. Il a un ami là-bas.
Alors, impossible de vérifier si Jean-Luc Brunel est bien en Thaïlande. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été pris en photo lors d'une fête du très select Country Club à Paris le 5 juillet dernier. J'ajoute que début septembre, la police française a perquisitionné son ancienne agence Karine Model à Paris.
Oui, c'est sur cette information qu'on va s'interrompre quelques instants. Mais surtout, restez avec nous dans une deuxième partie. Eh bien, on va vous raconter ce qu'était la vie de Jeffrey Epstein en France, chez nous donc, à Paris. C'est beau, hein, un léger voile en voix de tête, c'était She's My Sunshine, la dernière pépite de la jeune anglo-jamaïcaine qui répond au nom de Céleste.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a rappelé qui était Jeffrey Epstein et vu quel rôle semblait jouer Jean-Luc Brunel auprès de lui, eh bien on va regarder de plus près ce que faisait l'homme d'affaires lorsqu'il venait chez nous, parce qu'il était souvent à Paris, Teoetsch, et c'est vous qu'on va entendre maintenant. Alors dites-nous pour commencer, déjà, quand est-ce qu'il est venu pour la première fois dans la capitale ?
Difficile à dire, en tout cas il vient pour la première fois avec son Boeing 727 le 3 mai 96. Mais c'est à partir de 2001 qu'il va venir plus régulièrement. Au début, il loge à l'hôtel Bristol. À cette période, il entretient une relation avec une Parisienne de 26 ans. Et bientôt, il embauche un homme à tout faire pour s'occuper de lui.
Et lorsqu'il vient à Paris, Jeffrey Epstein, il fait quoi ?
Eh bien, il va au musée, il rencontre des amis et il va à la piscine presque tous les après-midi au Ritz, place Vendôme. Son majordome a accepté de nous parler en exclusivité. Lui le décrit comme quelqu'un d'assez solitaire. Écoutez précisément ce qu'il nous a dit sur ses activités. Nous avons fait lire ses propos par un journaliste.
Jeffrey Epstein n'était pas très mondain, il passait pas mal de temps sur son ordinateur. Mais en même temps, il bougeait souvent, il avait du mal à rester en place. Ça lui arrivait d'aller au cinéma avec plusieurs filles, mais de partir au bout de 30 minutes parce qu'il s'ennuyait. Il allait souvent se balader sur les Champs-Élysées.
Ouais, sur les Champs-Élysées, mais aussi dans le deuxième arrondissement.
Oui, Jeffrey Epstein arpente aussi les boutiques d'art. Vous savez, on a beaucoup vu tourner sur Internet une photo d'un tigre empaillé présent dans sa maison de New York. Exactement. Et bien cet objet, il vient d'une boutique parisienne. Epstein s'intéressait beaucoup à la décoration. C'est en tout cas ce que nous a raconté Linda Pinto, prestigieuse décoratrice des stars. Elle a aménagé plusieurs résidences d'Epstein.
De temps en temps, il appelait et il demandait si on était au bureau. Il passait nous voir pour parler, parce que la décoration l'amusait, et pour parler de tout et de rien. Et c'était un homme sympathique et intéressant et intelligent, donc on avait plaisir à l'écouter. Il passait pas des heures, hein, il venait un peu en flèche, et puis 20 minutes après, il disait « bon, ben alors je m'en vais », et puis il repartait. C'était purement professionnel.
Et purement professionnel. En revanche, lorsqu'il est chez lui, là, il est parfois moins question de travail.
Oui, son majordome nous a aussi raconté que son patron passait beaucoup de temps à se faire masser par des femmes qu'il payait.
Il aimait la compagnie de femmes jeunes, ça c'est sûr. Elles restaient quelques jours à Paris, puis elles repartaient. Alors j'ai pas vérifié, mais à mon sens, elles étaient toutes majeures. Comme monsieur aimait beaucoup les massages, elles étaient embauchées pour ça. On peut parler de prostitution, même si les massages n'étaient pas tous accompagnés de relations sexuelles. Lorsque j'ai commencé à son service en 2001, il se faisait masser au moins deux fois par jour, parfois même trois ou quatre. Mais c'était moins fréquent ces dernières années. Les femmes, elles lui coûtaient beaucoup d'argent.
Et parmi ces femmes qui arrivent à Paris, il y a Virginia Roberts, celle qui l'accuse aujourd'hui d'avoir fait d'elle l'une de ses esclaves sexuelles. Elle a alors 17 ans, nous avons eu son avocate. Elle affirme qu'Epstein a également abusé d'elle à Paris, sur le sol français.
Ah, et ces femmes qui l'accompagnent dans la capitale, il les emmène parfois aussi en soirée.
Oui, en tout cas, certaines d'entre elles, elles l'accompagnent à des soirées parisiennes. Par exemple, en 2012, il est invité à une soirée chez la princesse Bourbon des Deux Siciles à Paris, une fête en l'honneur de Woody Allen.
Ouais, dans ces soirées, d'ailleurs, on l'avait encore aperçu assez récemment.
Oui, il était encore à Paris le 29 mars dernier pour la clôture d'un colloque organisé par l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. C'était pour les 30 ans de la pyramide du Louvre.
Et qu'est-ce qu'il dit de tout ça, lui, Jack Lang ?
Eh bien, il nous a confirmé que le financier américain était souvent entouré de jolies femmes, mais qu'elles n'étaient pas des mineures, selon lui. Et il dit être tombé de l'armoire quand il a appris de quoi il était accusé.
Bon, dont acte. Maintenant, à minima, ça montre quand même que Jeffrey Epstein avait une vie mondaine à Paris.
Oui, et ce que le majordome nous a également confié, c'est qu'Epstein aimait tellement Paris qu'il aurait même envisagé d'y passer une partie de ses vieux jours.
Ouais, il l'aimait tellement, d'ailleurs, qu'il y a acheté un appartement.
Deux appartements, en fait, situés au 22 avenue Foch, à deux pas de l'Arc de Triomphe, l'un au deuxième et l'autre au cinquième étage. Il a d'abord loué ses appartements, puis il les a achetés en 2002 pour un peu plus de 3,5 millions d'euros. Il a ensuite racheté d'autres dépendances et au final, après quelques travaux, son pied-à-terre mesurait 800 mètres carrés.
800 mètres carrés, il a même essayé de l'agrandir. Et il vaut combien aujourd'hui cet appartement ?
Eh bien, depuis 2002, il a pris de la valeur. Il est estimé dans le testament de l'homme d'affaires à 7,8 millions d'euros.
Ah, et ce qui fait une sacrée plus-value. Et il ressemble à quoi cet appartement ?
Eh bien, écoutez, cet artisan, il y a travaillé entre 2002 et 2005. Lui non plus n'a pas souhaité être enregistré. Alors nous avons fait lire son témoignage.
Je me rappelle bien de l'appartement, très grand, de nombreuses chambres, une salle de massage et une salle de sport quasi professionnelle. Mais surtout, j'ai été marqué par les nombreuses photos de jeunes filles dans l'appartement. Elles étaient disposées dans des cadres un peu comme on présenterait des photos de famille. Les filles semblaient très jeunes, mineures, difficile à dire, pas beaucoup plus que 18 ans en tout cas. En voyant les photos, on ne pensait pas à la pédophilie, mais c'était limite, borderline. Je me souviens aussi d'autres photos d'Epstein avec des personnalités, comme Bill Clinton ou encore avec le pape.
Le pape Jean-Paul II, hein, précisément. Un autre artisan, lui, se souvient d'un long couloir avec de nombreuses photos de jeunes femmes, ce que nous a confirmé l'épouse du majordome, qui nous a notamment parlé, elle, d'une magnifique photo de femme nue et cambrée dans la salle de massage.
Donc ça, c'est pour l'appartement. Et sinon, dans cet immeuble, Théo, qui vivait là, à part Jeffrey Epstein ?
Eh bien, que des personnes fortunées. Au rez-de-chaussée et au premier étage, il y a notamment la société d'un membre de la famille royale saoudienne. C'est la troisième personne la plus riche d'Arabie Saoudite.
Oui, donc du beau monde. Et j'imagine que pour gérer un tel appartement, il faut du personnel.
Oui, il y avait une femme de ménage, hein, évidemment. Mais le personnage central, c'est le majordome dont je vous parlais il y a un instant. C'est l'homme à tout faire. Il entretenait l'appartement, il conduisait le financier, mais aussi ses amis. Par exemple, le prince Andrew, cité dans la procédure par Virginia Roberts, Valérie Cantier en a parlé tout à l'heure. Mmh. Eh bien, le majordome nous a dit l'avoir rencontré à plusieurs reprises.
Monsieur Epstein, d'après ce que je sais, avait une relation d'affaires avec le prince Andrew. Je l'ai vu plusieurs fois dans l'appartement parisien, avenue Foch. Il y a même séjourné plusieurs jours sans que monsieur Epstein soit là. Je le conduisais en voiture, je l'emmenais à des soirées, je m'occupais de lui. Je lui faisais à manger aussi.
Oui, on va préciser que le prince Andrew, lui, dément les allégations portées contre lui. Mais sinon, Jeffrey Epstein, il recevait d'autres invités.
Oui, il y a aussi l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Le chantre de l'ultra-droite américaine aurait lui aussi séjourné à Paris, chez Epstein, il y a un an seulement, en octobre dernier. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs durant ce séjour qu'il rencontre Marine Le Pen. C'est en tout cas ce que nous a affirmé la femme du majordome.
Bannon, ah oui, il est venu chez Epstein, mais pas qu'une seule fois. À chaque fois qu'il venait, c'était pour des meetings de Marine Le Pen. Je ne connais pas la vie de ce monsieur, mais ils doivent être du même parti ou avoir les mêmes idées. Moi, je sais que je l'ai vu là-bas en octobre dernier et que mon mari m'a dit qu'il l'avait conduit. Deux jours après, je le vois aux informations et je demande à mon mari « Ah, mais c'est lui le type qui était là-bas que tu as conduit ?» Il m'a répondu « Oui, c'est un politicien ».
Alors j'ai contacté la porte-parole de Steve Bannon, mais elle dément et explique que son patron séjourne systématiquement à l'hôtel Bristol lors de ses déplacements à Paris.
Ouais, systématiquement ou pas, d'ailleurs, en tout cas on a deux versions différentes. Donc, et à part le prince Andrew et Steve Bannon.
Eh bien toujours selon le majordome, il y aurait aussi eu le couple Bill et Melinda Gates. L'homme à tout faire dit s'être également occupé d'eux à Paris, leur avoir fait à manger un soufflet aux œufs pochés précisément.
Ouais, ça existe, on a vérifié sur Google. Enfin, ce sera ça pour l'anecdote. Mais sinon, soyons sérieux, est-ce qu'il y avait un lien ou pas entre ces personnalités qui viennent le voir et les filles qu'il faisait venir ?
Impossible à dire. Selon le majordome, si quelques-unes sortaient avec lui, la plupart des jeunes femmes étaient souvent tenues à l'écart lors des réceptions mondaines ou professionnelles. Elles mangeaient même parfois dans la cuisine, nous dit-il. Bref, si l'on en croit toujours son homme de confiance, il cloisonnait ses activités.
Il était assez secret. Il ne voulait pas que d'autres gens, même ses amis, sachent depuis combien de temps les filles étaient là. Tiens, par exemple, un jour, je vais chercher un de ses amis à l'aéroport du Bourget. Dans la voiture, l'ami m'interroge. Jeffrey est à Paris depuis combien de temps ? Je réponds, désolé monsieur, je ne peux pas vous le dire. Arrivé à l'appartement, Jeffrey retrouve son ami qui lui raconte l'anecdote. Eh bien, monsieur Epstein m'a félicité ensuite d'avoir gardé le silence.
Ouais, donc le majordome est un homme très discret.
Et surtout très dévoué, à tel point que Jeffrey Epstein lui a demandé de former l'autre majordome de sa résidence de Palm Beach. D'où cette question, est-ce qu'il en sait plus et il se tait ? Nous avons découvert que depuis l'ouverture de l'enquête en France, il est non seulement retourné au 22 avenue Foch, mais il s'y est ensuite installé quasiment en permanence. On peut donc se demander ce qu'il y a fait. Est-ce qu'il était là pour l'entretenir tout simplement ou pour faire disparaître des indices ? Car ce n'est que plus tard, le 23 septembre dernier, que l'appartement a finalement été perquisitionné. Mais là encore, impossible de répondre. Ni lui, ni son avocate n'ont répondu à nos sollicitations.
Ouais, c'est là-dessus qu'on va conclure cette émission. Merci donc pour cette enquête, Théo Hetch. Merci également à Valérie Cantier, qu'on a entendu tout à l'heure. Merci à Laetitia Chérel, qui a participé également à cette enquête. Alors, je précise qu'on peut réécouter cette émission, la lire ou la podcaster, d'ailleurs, sur franceinter.fr et sur sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire, comme chaque semaine, sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter, Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand. Dans quelques instants, dans la librairie francophone, Emmanuel Kérad recevra notamment Éric Orsenna et Marie Desplechin. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.